R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Commandant, est-ce que nous continuons ? Non, manœuvrez pour qu'il s'approche. Autrement, nous recevrons ces bordées de flancs. Vous connaissez mes ordres pour l'abordage ?
Oui, je sais.
Bonsoir déjà à tous, bienvenue donc à l'espace Kiasma. C'est la troisième soirée qu'on passe en compagnie de Jean-Paul Curnier. C'est dans le cadre de sa résidence d'écriture qui va donc durer un an à l'espace Kiasma. Pour mémoire, cette résidence, c'est un peu un chemin un peu particulier, puisque au lieu d'emprunter, je dirais, une forme d'écriture qui pourrait être celle de l'essai, comme on en a parlé, Jean-Paul nous propose un peu un voyage de pensée à partir d'une idée qui est d'abord présente en germe au début de cette résidence, et le parcours qu'on va faire ensemble, ça va être aussi un parcours qui va permettre de développer cette idée un petit peu en public, sous la forme de séances publiques. En tout cas, le point de départ de cette résidence, c'est de réfléchir aux relations qu'entretiennent la prédation et la démocratie. Et ça, à la fois, les deux termes, je ne sais pas s'ils sont au départ éloignés. En tout cas, il n'est peut-être pas tout à fait naturel d'associer ces deux idées-là. C'est un peu le chemin de pensée que nous propose Jean-Paul. Et alors, ce soir, il y a un espèce de défi. Alors, la proposition de Jean-Paul au départ, c'est de se dire, on va poursuivre à réfléchir à cette question de prédation et de démocratie à travers la figure du pirate en invitant un chroniqueur taurin. Donc bon, moi, comme j'ai tout à fait confiance en Jean-Paul, je me suis dit ok. J'ai passé un tout petit peu de temps à réfléchir et je me suis dit bon, de toute façon Jean-Paul sera là et lui-même nous expliquera. En tout cas, bienvenue à Jacques Durand ce soir qui est chroniqueur taurin. C'est à toi, Jean-Paul.
Merci Olivier. Oui, c'est ça. J'ai retenu cette expression. Elle est très très juste que tu as dite. Voyage de pensée. C'est un voyage de pensée. Un voyage, ça veut dire on part, on s'embarque et puis on verra bien où est-ce qu'on arrive. Alors, en fait, là, il y a des raisons à tout ça. La première, donc, le thème de réflexion, effectivement, c'est prédation et démocratie. Bon, mais j'avais depuis assez longtemps remarqué, pour avoir lu ça chez Daniel Defoe, puis aussi parce que je m'étais intéressé à la piraterie, comme beaucoup d'enfants, et même plus tard, que les pirates avaient un code d'existence, parce qu'ils vivent longtemps sur les bateaux, et qui allait jusque dans l'assaut, dans l'abordage, dans le partage de butin, etc. Et je me souvenais que les pirates avaient des formes d'existence, qui se donnaient des formes sociales d'existence, qui étaient des formes démocratiques. Donc, je me suis souvenu de ça, je suis allé fouiller un peu plus près pour voir si je me trompais, si j'avais halluciné ou pas, et pas du tout. Et je me suis rendu compte avec des lectures faites par d'historiens contemporains de la piraterie, comme Marcus Rediker, par exemple, Christopher Hill, qui sont des historiens, des savants, qui travaillent depuis 35-40 ans sur ces questions de mode de vie de la piraterie, à partir de cet espace clos qui est le bateau et tout ça. Bon, et un jour, je parle de ça à Jacques, puisqu'on se donne entre amis des nouvelles, de qu'est-ce qu'on fait. Toi, tu écris, je dis, ben écoute, en ce moment, je suis totalement pris par cette histoire de piraterie, et je lui dis, mais c'est drôle, je vois toujours apparaître la figure du torero. Jacques me dit à ce moment-là, mais j'ai un ami qui s'appelle Luis Francisco Espla, qui est un matador maintenant en retraite, enfin, qui a pris sa retraite il y a peu de temps, et qui a une correspondance publiée dans un livre qui s'appelle Toro, correspondance entre le Luis Francisco Espla et Jacques Durand, donc Jacques Durand est ici, et dans cette correspondance, il y a effectivement une lettre. Et dans cette lettre, Luis Francisco Espla écrit à Jacques, tu sais, quand je vois...
Tu dis qu'à l'extérieur, on nous tiendrait pour une humanité étrange, nous autres gens du taureau. Mais si tu savais comment nous vous considérons, parfois tu prendrais peur. Tu vois, tout est une question de point de vue. Par sa façon de vivre, ma quadrille me rappelle beaucoup ces équipages de pirates qui hantaient jadis la mer des Caraïbes. Il y a un seul vrai monde pour eux, le leur. Si d'autres réalités existent par la volonté de Dieu, elles n'ont à leurs yeux aucun sens, aucune justification. Moi, je suis l'élément le plus important de ce microcosme, car d'une certaine manière, je suis l'astre qui imprime le mouvement aux autres particules du système. C'est ainsi, plus ou moins, qu'agissent les intrépides corsaires. S'il y a du butin, c'est-à-dire du succès, il leur revient de plein droit, autant qu'à moi. Mais par gros temps, je sais pouvoir les compter à mes côtés pour supporter leur part de l'amertume des naufrages. Il ne va pas croire pour cela que ce sont des gens bizarres. Simplement, il refuse de partager le miel des triomphes ou le fiel des échecs avec des étrangers. Les étrangers sont ceux qui n'ont pas participé à l'abordage, à notre abordage. C'est pourquoi nous transformons les hôtels que nous fréquentons, et nos voitures même, en d'hermétiques coquilles de noix dans lesquelles les membres d'équipage seuls peuvent trouver place. Bien sûr, il existe une sorte de fraternité d'armes entre les quadrilles. Mais de là à ce qu'on s'y permette la moindre ingérence, il y a, pour ainsi dire, un océan. Imagine un peu. Comment l'équipage de Barbe Noire irait-il se réjouir d'un abordage victorieux mené par les hommes de Surcouf ? Jamais de la vie. Non seulement le dénommé Surcouf a fauché un délicieux butin à l'autre flibustier, mais encore lui a-t-il soufflé la gloire d'avoir arraisonné une frégate de plus, l'agrément de pouvoir passer les officiers du navire adverse par le fil du couteau et le plaisir de s'envoyer leurs femmes. Bon, maintenant je m'en vais car mes équipiers m'attendent. Il y a une brigantine qui a jeté sa chaloupe dans les eaux et elle est tombée en plein entre les griffes de mes loups de mer. Je m'en vais, Jacques. Pour rien au monde, je ne voudrais rater la curée. Luis Francisco Espla, lettre à Jacques Durand, édition Marval, 1994.
Commencer. D'abord, un mot sur Jacques Durand, dont je suis vraiment infiniment heureux qu'il soit là ce soir, à la fois par amitié, mais je suis heureux pour vous, parce que c'est quelqu'un d'une très très grande qualité. C'est un écrivain, c'est pas donc seulement un journaliste taurin, c'est plutôt un héritier de José Bergamine, de ce point de vue-là, c'est-à-dire des écrivains taurins, qui sont pas seulement des gens qui racontent ce qui s'est passé. Ils ne font pas des comptes rendus. Ils essayent de portraitiser quelque chose qui est infiniment difficile. C'est Dominguine qui a dit ça, oui, cette phrase. Si j'étais capable de dire ce que c'est que la corrida, je serais le plus grand philosophe du siècle. Ben moi, je ne suis pas le plus grand philosophe du siècle. Moi, je ne suis pas arrivé, peut-être que toi non plus. On n'y arrive pas, Dominguine non plus, d'ailleurs. Personne, Sartre non plus. Ça veut dire qu'écrire dans ces cas qui sont celui de la piraterie, de la tauromachie, c'est former une langue. Il faut former une langue pour parler de ces choses qui sont étranges, incandescentes, fuyantes, et profonde en même temps, parfois métaphysique, parfois terriblement matérielle. C'est un rapport très très étrange qui nécessite donc de construire une langue, et ça c'est le travail d'un écrivain. Voilà, donc Jacques a publié énormément de livres, mais puisque je parlais des portraits, je pourrais dire les portraits qu'il a fait par exemple de Morante de la Puebla, Morantissime, de José Tomás, immense matador, de Raphaël Chauve. Et puis un livre que je trouve très attachant qui s'appelle Humbles et Phénomènes, si vous pouvez vous le procurer, si c'est encore possible, c'est vraiment très beau de le lire. Les humbles, c'est les gens des arènes qui ont un petit rôle minuscule, mais qui sont souvent des figures, des personnalités, des personnages de l'arène. Et puis les phénomènes, c'est évidemment les grands extravagants. Alors évidemment, la corrida, on peut être pour, contre, etc., mais ce n'est pas tout à fait le sens du débat. Le sens de la question qu'il s'agirait de qu'on va essayer de développer d'ailleurs tous les trois, c'est qu'est-ce qui se joue dans cette affaire de prestige, dans la rencontre avec la mort, et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il y a là quelque chose qui surpasse la morale, d'une certaine façon, qui la dépasse, mais aussi... Quelles en sont les péripéties ? Quels sont les ingrédients de cette histoire-là, de ces deux histoires, tauromachie et piraterie ? que la piraterie a eu lieu en règle générale 17e et 18e siècle, et que tout ça s'est éteint, et qu'ensuite est sortie de là une légende avec des personnages incroyables, Racam le Rouge, Barbe Noire, Bartholomew Roberts, etc., etc., enfin toutes les grandes figures de la piraterie, dont on parlera tout à l'heure, et que tout ça est venu après, mais pas du tout. Il y a eu un chroniqueur de la piraterie qui a été le chroniqueur de ce qu'il a appelé donc la vie des plus grands pirates, et c'est Daniel Defoe. Sauf que Daniel Defoe, à cette époque-là, ne signe pas Daniel Defoe, il signe Captain Johnson. Et qu'il a fallu attendre, il y a 10 ans, pour savoir que le Captain Johnson, qui est l'auteur de l'histoire des plus fameux pirates en 2 tomes, ce n'était personne d'autre que Daniel Defoe. Et voilà que Daniel Defoe donc produit des portraits de pirates. Il les produit sous la forme de l'immoralité, en disant « Regardez comme tout ça est atroce, affreux », mais on voit bien que c'est un éloge. Mais qu'il fait à contrario, c'est-à-dire en montrant à quel point ces gens sont peu recommandables. À cette époque-là, il va y avoir 4 éditions de l'histoire des plus fameux pirates, parce que c'est une vogue extraordinaire, une vogue qui n'a son égal en tauromachie que dans les années 30, on peut dire, et dans les années 50 en France, de Dominguin jusqu'à Cordobès, afin de dire, on va prendre deux grandes figures comme ça de la tauromachie populaire, mais pas que populaire. On pourrait dire people, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que ça excède très largement le monde tauromachique, ça devient aussi important que les Beatles pour Cordobès ou que, bon, je dirais que Frank Sinatra pour Dominguin. Donc, il ne faut pas croire qu'on va dire, ah bah tiens, on parle d'une légende pirate. Non, la légende pirate a été construite immédiatement pendant la piraterie et elle s'est constituée d'entrée comme légende. Ça a une implication, c'est la coquetterie pirate. Qu'on trouvera d'ailleurs pas après chez certains bandits de l'Ouest américain. Alors, coquetterie qui va jusqu'à l'extravagance, jusqu'à la cruauté extrême, mais chacun est extrême. Et ça, c'est une des caractéristiques importantes qui n'est pas non plus étrangère à certains toreros. C'est-à-dire donc une coquetterie, un rapport au public qui est parfois de dévotion intense à sa propre image, à son propre... Voilà.
Et alors Jacques, on écrit plus sur les toreros que sur les taureaux, en fait, si j'ai bien compris.
Ah non.
Pas spécialement.
Non, parce que pour comprendre ce que fait un torero en piste, il faut comprendre ce que fait un taureau. Et c'est le comportement très nuancé du taureau qui détermine toutes les, ce qu'on appelle les suertes, c'est-à-dire toutes les figures que fait un torero devant lui. C'est l'élément premier, c'est le taureau. Comme j'imagine l'océan pour les pirates. D'ailleurs, il y a certaines images employées par les chroniqueurs taurins qui reviennent, qui sont souvent des lieux communs. Le taureau est comme un océan déchaîné. Et le torero, il faut qu'il arrive à naviguer là-dessus et à bien rouler là-dessus. Donc, l'élément essentiel, comme dans les histoires de pirates, c'est l'océan, et dans les histoires de corrida, c'est d'abord le taureau. Évidemment, on commence d'abord par regarder l'homme, le torero. Moi, j'ai fait ça, les gens qui viennent à la corrida font ça, etc. Mais donc, il faut voir l'articulation que les deux font ensemble.
De la tyrannie de ces officiers, Hidalgo cruel et dégénéré. En vertu de quoi j'en prends possession, au nom des frères de la côte, pour en assurer le commandement. Je suis le capitaine
Alors,
Thomas.
Il y a quelque chose, parce qu'on a fait ces liens-là entre le monde, et le cinéma est aussi assez fort pour ça, entre le monde de la tauromachie et le monde pirate. Après, il y a une chose qui est quand même un petit peu, moi qui m'interroge, que je ne connais pas très bien ça, ce qui semble assez intéressant et donc a une dimension démocratique chez le pirate, c'est qu'il va y avoir la figure du capitaine. Et puis après, ça ramasse autour l'équipage et toujours un espèce d'équipage relativement hétérogène, tout cas, il y a une espèce de proposition enfin, dans le monde des pirates qui, quelque part, devance même les sociétés qui leur sont contemporaines, où on a une espèce de mondialisation comme ça dans la piraterie qui est un tout petit peu en avance sur la mondialisation de l'époque à laquelle ça se situe. Je ne sais pas si dans cet espace taurin, j'avais un sentiment qui est beaucoup plus homogène, en fait. Parce que quelque part, il y a bien le toréador, mais ceux qui l'entourent alors, sont peut-être passés doubles, mais sont quand même des figures qui sont... qui sont-ils ?
Alors, le monde de Taurin est un monde qui est constitué avec des codes précis, un certain jargon, et qui est un monde un peu marginal par rapport au reste de la société espagnole. Marginal, mais pas contre la société espagnole. Ce n'est pas un monde révolutionnaire qui veut la renverser. C'est un monde qui veut en profiter, qui veut rentrer dans ces richesses-là. Hein, il y a un écrivain espagnol qui s'appelle Guillermo Sureda qui disait que le torero, c'est une sorte d'insurgé social. On peut, effectivement, il y a certains cas qui vont dans ce sens-là. Par exemple, Manuel Benitez El Cordobés, celui qu'on voit avec Dalida, etc., est un torero dans les années 60 qui connaissait la faim, l'Andalousie connaissait la faim, qui connaissait la misère, qui était extrêmement pauvre et qui a commencé à se venger de la faim et du mépris que la Guardia Civil lui imposait parce qu'il était en prison pour les vols d'orange, etc., en se faisant torero et en forçant ce monde qu'il méprisait pour devenir une idole, mais extraordinaire, assez extraordinaire, puisque même Kennedy l'invitait à manger à la Maison Blanche, et lui, il revenait d'Amérique, il disait Kennedy, ouais, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce qu'il est laid, enfin, des trucs comme ça. Un torero comme Reverte au début du XXe siècle, son père était ouvrier agricole dans une propriété andalouse, son père s'est fait virer par un terrateniente, un grand propriétaire, il se fait torero pour pouvoir racheter les biens du type qui avait viré son père. Et voilà. Donc il y a un élément, il y a une sorte d'arrogance dans le désir du torero de torer. Ça va au-delà du rapport social. Par exemple, le torero mexicain Silverio Pérez, il est à Veracruz en train de veiller le cadavre de son frère Carmelo Pérez qui revient d'Espagne et qui a été tué par un taureau. Et c'est au cours de cette veillée qu'il décide de devenir matador, comme s'il se révoltait contre la mort de ce frère par les taureaux. Voilà. Donc l'idée de revanche sociale ou ontologique existe hein, chez certains toreros. Il y en a d'autres qui sont issus de familles riches et qui deviennent toreros parce que c'est prestigieux.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est une constante pratiquement aussi chez les pirates. D'abord, il y a pas mal de bateaux qui s'appellent, par exemple, Queen Anne's Revenge, et le mot « revanche » revient sans arrêt dans la piraterie. Alors, pour des raisons presque analogues, mais liées à des choses plus particulières, souvent. D'abord, évidemment, les pirates, en règle générale, sont des gens issus d'un milieu extrêmement pauvre, de marins assez pauvres, et tout ça. Par contre, on va trouver, par exemple, des gens extrêmement engagés de la réforme en France, notamment un certain Coligny qui était le chef du parti de la réforme et qui devient pirate pour massacrer les comptoirs espagnols parce que les comptoirs espagnols enrichissent l'Église et que l'Église et l'Inquisition espagnole à l'époque exercent un pouvoir colossal. Et donc pour affaiblir la religion catholique, romaine, etc., donc, ils envoient là, on trouvera énormément d'équipages pirates protestants par exemple et surtout des colonisations pirates protestantes dans les Antilles. Deuxième, et eux, alors ça s'appelle Revenge, etc., etc. Il y en a pas mal aussi chez eux. Chez les Anglais, ça s'appelle les Dissenters, c'est-à-dire les gens autour d'eux, c'est ceux qui ont fait clivage dans l'Église anglicane et qui sont les premiers révolutionnaires. Ils ont été d'abord expatriés dans les Antilles et ils ne rêvent que d'une chose, c'est en découdre avec les Britanniques, avec les Français, Espagnols, etc. Et on a donc au sein des Antilles, des gens qui sont dans l'idée d'une revanche parce qu'ils ont été humiliés ou parce qu'ils ont été méprisés. Donc, soit des prolétaires de la mer, dont j'ai parlé, soit des protestants, soit des dissenters. Voilà. Et ça forme vraiment une armée de combat absolument colossale. Quoi, vraiment colossale. Mais pas seulement. Parce que sinon, ça ne serait que des mouvements de revanche. S'y ajoute cette soif du prestige, quoi, qui est vraiment importante chez les pirates, comme d'ailleurs chez les matadors.
Cette soif du prestige, alors c'est ça qui guide en fait la prise de risque.
Alors le prestige, je vais d'abord vous donner d'autres exemples de l'arrogance et du prestige du torero. Manuel Benitez el Cordobés, donc celui qu'on a vu là, un jour il torait à Madrid et Franco préside la corrida. Franco n'aimait pas trop les corridas, mais par protocole il devait assister à quelques corridas et les toreros étaient obligés d'aller brinder, c'est-à-dire offrir le combat qu'ils allaient faire au chef de l'État. Et donc Cordobés, dont le père d'ailleurs est mort dans les prisons franquistes, va offrir son combat à Franco et lui dit: nous sommes les deux Espagnols les plus connus au monde, moi d'abord et vous après. Un autre torero, par exemple, Roberto Dominguez, qui est un bon torero des années 80, un jour il va brinder un taureau, un des amis qu'il voit dans les gradins, et à côté de cet ami, il y a un ministre. Et le ministre se lève, il pense que c'est pour lui. Et Dominguez lui dit: rasseyez-vous, c'est pas pour vous, c'est pour ce monsieur à côté. Donc, les toreros sont comme s'ils étaient au-dessus de la hiérarchie. Ils se sentent au-dessus de la hiérarchie. C'est un monde qui est à la fois marginal, qui évolue comme une espèce de petite... Je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Vous me demandiez à propos de l'équipage, s'il y avait des équipages de toreros. Donc, pour clarifier les choses, le torero a une quadrille, a une équipe. Dans cette équipe, il y a à peu près une dizaine de personnes. Il a trois toreros à pied qui ne tuent pas le taureau, hein, qui sont ces subalternes qui placent le taureau, posent les banderilles et deux picadors. Plus il a un valet d'épée qui ne taurait pas. Le valet d'épée, c'est un peu le régisseur de tout ça, de l'équipe. Il va se faire payer par l'organisateur. Si le torero veut de la cocaïne, il va chercher. Il sait où aller chercher de la cocaïne.
Ouais, c'est un bon régisseur.
C'est un bon régisseur. Il sait tout faire. C'est un peu Scapin, etc. Il sait tout faire. Il y a aussi l'apoderado, qui est le manager. Et puis, il y a le chauffeur qui conduit tout ce beau monde de Malaga à Bilbao. Voilà. Et toute cette équipe-là, je ne sais pas pourquoi, ils circulent la nuit. Bon, ils vont à la corrida est en fin d'après-midi, la corrida dure 2 heures, ils vont à l'hôtel, chez les habits, ils perdent beaucoup de temps à parler, et ils partent la nuit, mais y compris quand ils n'ont pas... quand ils pourraient voyager le jour, non, ils voyagent la nuit. Donc, moi, je lis ça comme un peu... d'abord, le désir de noctambulisme de l'Espagne, et puis comme une sorte aussi de marginalité. Il y a un écrivain qui s'appelle Antonio Burgos qui comparait ce mode de vie de cette équipe qui va la nuit d'une ville à l'autre, qui se pose, qui tue des taureaux, qui prend de l'argent, qui repart la nuit. Il comparait ça aux équipes de bandoleros, de bandits de grand chemin qui étaient en Andalousie au XVIIIe siècle, qui pillaient les diligences et puis qui disparaissaient et puis qui allaient faire un autre coup ailleurs. Et il y a un peu de ça dans le comportement des toreros et dans la vision que l'État espagnol a eue de ce monde-là. C'est un monde qui lui a paru toujours un peu étrange. C'est un monde qui, pendant des années, jusqu'à 2 ou 3 ans, était régi par le ministère de l'Intérieur. Alors que maintenant, un gouvernement socialiste, d'ailleurs, espagnol, l'a placé sous le pouvoir du ministère de la Culture, des culturelles. Et les corridas en Espagne, il y a un président de corrida qui préside la corrida pour voir si tout se passe selon les lois et le protocole. Et les présidents de corrida en Espagne, pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'était un commissaire de police. Et si le torero faisait un écart, une entorse au règlement, on pouvait le mettre en prison et lui donner une amende, hein, parce qu'il troublait l'ordre public. Et donc, le monde de la tauromachie a longtemps été considéré comme une classe un peu dangereuse, à cause de sa bohème, à cause de ses fréquentations avec des artistes, des chanteuses, etc. Et donc, il y a toujours ce regard un peu étrange, y compris en Espagne, et peut-être surtout en Espagne, sur ce monde des toreros. Il y a un torero qui s'appelait Pepete, il va... Au début du XXe siècle, il va à l'enterrement de notre torero qui a été tué par un taureau. Et il dit: je ne sais pas ce qui se passe, tous les gens me regardent comme si j'allais mourir moi bientôt. Et effectivement, un taureau va le tuer bientôt. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, beaucoup de toreros meurent parce qu'il n'y a pas la pénicilline, donc il y a la gangrène, etc. Et donc, ce sont des gens qui sont comme ça, des trompe-la-mort. Et c'est un peu ce dont Padilla a hérité quand il dit voilà, c'est trompe la mort. Et c'est ce prestige-là aussi qui compte.
Une espèce de mélange un peu paradoxal entre une discipline, donc un ordre et un désordre interne. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quand même quelque chose d'assez réglementé. On voit comme pour le bateau, hein, il y a quand même un chef, il y a quand même des modes d'action, des éléments stratégiques, donc une organisation. Et à la fois, à l'intérieur de ça, je vois là, c'est quand on voit Marlon Brando qui lâche ses soldats. Il y a une nécessité interne qui est quelque chose qui, j'ai envie de dire, incarne le désordre. C'est pas non plus que le désordre arrive, mais quelque part, il est comme une nécessité, comme vous disiez, par rapport à cette question de la marginalité. Si elle est tolérée par l'État, c'est qu'elle est aussi une forme de nécessité, un espace qui doit exister d'une certaine manière et qu'il faut en quelque sorte réglementer, ce que la piraterie a pu être aussi pour les États qui, par pirates interposés, réglaient plus ou moins aussi leur compte. Donc une nécessité anthropique dans un monde qui se veut maîtriser.
Bon, ce qui est extrêmement étrange, c'est le mode d'organisation des pirates. Alors, évidemment, il est distinct de celui des quadrilles. Donc, en tout cas, celui des équipages est distinct de celui des quadrilles. Pour faire... Pas trop vite, parce que c'est quand même passionnant, cette histoire. Et je pense que tout le monde ne le sait pas. Les pirates, à partir de la fin du XVIIe siècle, se donnent un code qu'on appelle la chasse-partie, au départ. C'est tout simplement un contrat d'engagement maritime que les pirates réclament, et ils demandent qu'il soit signé par chacun des pirates.
Nous, les signataires, avons convenu ensemble ce qui suit. Premièrement, d'un commun accord et bonne volonté, avons fait et écrit le présent contrat au tiers et nous voulons qu'il soit exécuté sous cette forme et appliqué sans résistance aucune, ainsi est notre volonté. Nous avons en plein accord nommé et nommons la personne de Monsieur Guillaume Cousin comme capitaine et commandant et promettons de lui obéir pour tout ce qui sera raisonnable et de ne rien exécuter sans l'en aviser, et lui fera de même. Et dessus dit, M. Cousin s'oblige à ne pas nous exposer à une mort ignominieuse et de ne rien exécuter sans nous en rendre compte, sous peine d'être dépouillé de sa charge, privé de son droit et dégradé sur une caille. Et pour de bons et agréables services que nous espérons de lui, nous sommes tombés d'accord pour lui offrir, dès que nous ferons une prise, la caisse du capitaine de la prise, ses habits, ses armes, à l'exception de l'argent sous différentes formes. Sans que personne puisse s'y opposer, tout l'or et l'argent frappé, comme celui qui ne sera pas frappé, sera rapporté à la table commune, comme tous les effets pour les mettre entre les mains du quartier-maître, lequel nous en rendra fidèlement compte et les répartira entre la compagnie quand cela sera possible. À cet effet, à la majorité des votes, nous avons nommé la personne du sieur Pirou comme notre quartier-maître pour qu'il prenne soin de garder fidèlement tous les effets qui seront remis entre ses mains et dresser un état de compte de l'argent frappé pour nous le remettre quand la dite compagnie le décidera. Et le dit quartier maître aura la main sur tout et maintiendra la paix en cas de discorde, et si quelqu'un s'oppose à ses ordres, il sera puni selon ce que décidera la compagnie. De même, le dit quartier maître sera tenu de traiter avec douceur ses compagnons, ne pas brutaliser par ses commandements, être fidèle et juste sur tout ce qui sera de son ressort et attentif, sous peine d'être privé de son droit, débarrassé de sa charge et dégradé. Et tous s'obligent à lui obéir quand il commande dans ce qu'il sait. Mais il ne fera rien de son propre chef sans s'en référer au capitaine et à la dite compagnie. Et les autres officiers de mer feront de même, remplissant leurs obligations sous peine d'une punition semblable. Et s'il se trouve que quelques-uns de la dite compagnie veulent violer de force une pucelle
ou une femme de qualité sans son accord, quiconque de la compagnie qui y assistera sera autorisé à lui casser la tête sans aucune objection. Celui qui voudra contredire le présent écrit sera puni et privé de sa part, de même que celui qui aura caché quelque chose et sera pris sur le fait. De même, celui qui le premier aura découvert une voile aura la permission de choisir le meilleur armement qu'on trouvera dans la cargaison, si on la capture. Pendant le combat, celui qui découvrira quelqu'un caché sera autorisé à lui rompre la tête. On ne pourra rompre ce contrat sans l'accord de la majorité des voix. Pour cela, le capitaine et le quartier-maître feront réunir toute la compagnie pour leur demander s'ils souhaitent ou non l'acquitter, au cas où il y a une offre de pardon. Chacun aura une part égale, les uns comme les autres, réservant au capitaine deux parts s'il a bien fait son devoir. Quant au quartier-maître, s'il a accompli son devoir en plus de sa part, chacun lui donnera quelque chose gracieusement. Ceci est nos volontés, et nous voulons que le présent contrat au tiers soit suivi intégralement et respecté tout le temps qu'il reste, et celui qui le violera sera dégradé et privé de sa part. Et nous avons tous d'un commun accord promis et promettons fidélité et vivre en bonne union, et pour cela, nous avons signé en bas et fait notre signe ordinaire, après l'avoir lu et relu, et fait lire le présent contrat au tiers, dans lequel nous n'avons trouvé aucune chose contraire à notre profit. Fait en mer, le 6 avril 1723.
Vive le capitaine Blaine !
Le capitaine est élu. Mais il faut un contre-pouvoir chaque fois qu'il y a un pouvoir. Et c'est là qu'on commence à se poser la question d'où leur vient une telle instruction politique aux équipages. Parce qu'apparemment, c'est des brutes. Donc, pourquoi ils mettent un contre-pouvoir qu'on appelle le quartier-maître ? Le quartier-maître a pour fonction de rassembler le trésor, mais de contrôler les excès de pouvoir du capitaine. Et de surveiller à ce que le capitaine ne profite pas de sa situation pour prendre le dessus sur l'équipage. Il est donc d'une certaine façon une représentation de l'équipage auprès du capitaine, alors que le capitaine est élu par l'équipage. Il est d'une sorte de garde-fou. Deuxième chose, il existe, mais très vite, après pratiquement de la fin du XVIIe siècle, il existe une sécurité sociale. Alors ça, c'est incroyable. Parce qu'on se dit, mais comment est-il possible que des gens pareils aient inventé... Et ils ont inventé une sécurité sociale pour les estropiés, les malades, les veuves, et ceux qui ne pouvaient plus faire la piraterie, c'est-à-dire la flibuste. Et qui était à demeure dans une île parce que estropié, etc. Il disait que là, ce qu'on appelle soit les frères de la côte, soit donc la confrérie des pirates, leur devait un secours. Donc il y avait une part du trésor, enfin une part du butin, pardon, qui était prélevée en sécurité sociale pour les vieux pirates, pour ceux qui étaient abîmés, etc. Troisièmement, le partage du butin est à égalité totale, mais avec des exceptions, comme à chaque fois qu'il y a égalité. Le capitaine pouvait avoir une part et demie ou deux parts, à condition que l'Assemblée générale le vote. Si un pirate venait à perdre le bras droit et qu'il était droitier, il touchait une part plus une énorme compensation pour le fait qu'il devenait infirme ou qu'il avait été blessé au bras, etc., etc. Chaque fois, c'était tarifé. Et en plus, s'il avait été vaillant pendant l'abordage, il y avait des primes. Mais tout ça a été décidé par l'Assemblée générale. Entendons-nous bien, c'est une sorte de soviète qui fonctionne d'une manière incroyable. C'est le soviète de Potemkin, le capitaine est élu, le quartier-maître donc est également élu et désigné, et ils sont révocables à merci. En plein fin 17e, début 18e siècle, on a un mode de société qui se crée dans un endroit très particulier, qui est un endroit de non-loi. Parce que d'une part, les Espagnols disent « c'est à nous », mais ils ne peuvent pas le défendre. Et d'autre part, les autres disent ben, « on n'a pas nos armées régulières pour aller envahir ce territoire ». Donc ce territoire appartient à qui voudra bien. Et l'idée qui naît chez les pirates, c'est un gouvernement collectif du territoire, enfin gouvernement, une maîtrise collective du territoire. Voilà. Donc c'est important parce qu'on se rend compte que le partage du butin, tiens, à ce propos, l'expression des années 70, dont on se demandait toujours d'où elle venait, elle vient justement de là. Prendre son pied, ça vient exactement de la piraterie, puisque le partage du butin se faisait au pied de chacun et que prendre son pied, c'était prendre sa part du butin. Et elle se faisait au pied de chacun pour que chacun puisse voir qui avait eu quoi et que l'Assemblée générale des pirates, donc l'ensemble de l'équipage, puisse dire « Eh bien, ça va, c'est équitable. Celui-là, il s'est bien battu, il a deux perles en plus ou un collier, ou ça, c'est normal. » Voilà. Et donc, chacun devait pouvoir montrer. Après, on ramassait ce qu'on avait au pied, donc ça s'appelait prendre à son pied. Le « a » a sauté dans l'expression. Voilà. Donc, ça pour dire qu'il y a quand même un truc assez particulier dans les équipages, lié effectivement à cette revanche. Moi, je pense, on a un peu parlé de ça tout à l'heure avec Jacques, je pense qu'il y a, mais historiquement, il y a des corrélations qui sont assez justes, je pense qu'il y a là la formation d'une aristocratie alternative. C'est-à-dire, il y a des formes aristocratiques, celles du prestige, jusqu'à la démagogie, mais qui sont l'idée qu'il faut être à la fois aimé, mais pas en plaisant. Il faut être aimé par les risques, par le risque du sang, le risque de la mort, donc les risques extrêmes. Et ce sont quand même les fondements de l'aristocratie, c'est-à-dire l'aristocratie du sang, des croisades, et non pas celle de robes ou des banques. Et effectivement, on s'aperçoit que la piraterie se déploie dans les Caraïbes au moment de l'effondrement de l'aristocratie espagnole. C'est-à-dire au moment où l'aristocratie, enfin, l'Empire espagnol est en train de s'effondrer peu à peu, et il s'effondre définitivement en 1720, et c'est exactement le moment de l'âge d'or de la piraterie, où là naît une sorte d'aristocratie sortie d'on ne sait pas où, des ténèbres, avec des gens incroyablement sauvages par moment, et par ailleurs infiniment cultivés.
Je vous assure que j'ai eu hier de la chance que vous embarquiez sur notre galère.
En quoi est-ce une chance?
Vous verrez. Vous comprendrez bientôt.
Et c'est le moment où la tauromachie se crée. La tauromachie contemporaine se crée. Vers 1720, du 18e siècle, le duc d'Anjou, un Bourbon, arrive sur le trône d'Espagne. L'aristocratie espagnole, le duc d'Anjou n'aime pas trop les jeux taurins qui se pratiquent en Espagne, qui sont des jeux taurins assez sauvages, mais qui servent aussi à s'entraîner pour la guerre. On tue les taureaux à cheval pour l'art de la guerre. Donc les aristocrates espagnols, par courtoisie envers leur monarque, le duc d'Anjou, se retirent des spectacles taurins qu'ils faisaient. Et donc, c'est le bon peuple, c'est-à-dire les laquais qui les aidaient à placer le taureau, qui prend en main tout ça. Et c'est vers 1720 qu'à Ronda, en Andalousie, un menuisier qui s'appelle Pedro Romero commence à fixer toutes les règles de la corrida, non seulement les règles, mais aussi les figures que doit faire un torero devant un taureau. Et c'est exactement la même époque. Et à Séville aussi, ça se passe dans les abattoirs de Séville, que la corrida naît dans les abattoirs de Séville. Pourquoi ? Parce que dans les abattoirs, on amène des animaux, et donc les types peuvent s'entraîner à faire des passes aux animaux et s'entraîner à les tuer, certainement d'une façon insupportable. Mais ça naît voilà, en 1720. Et la corrida se codifie exactement à ce moment-là. Et ce qui codifie la corrida, ce sont les toreros eux-mêmes. C'est le torero Francisco Montes, dit Paquiro, dit le Napoléon des toreros, qui fixe tout ce qui doit se passer dans une corrida, qui fixe à quelle distance du centre-ville doivent se trouver les arènes, de quelle forme aura les arènes, combien de chemins amèneront aux arènes, quel est le costume que doit porter le matador, qu'est-ce qu'il doit faire devant un taureau, quel temps il a pour combattre le taureau et comment son combat se divise en trois tiers, etc. Ce qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'est les toreros eux-mêmes qui forment la tauromachie. Et au niveau aussi de la reconnaissance sociale, ce sont eux, au cours du XXe siècle, qui créent leurs propres institutions, leurs propres assurances. Et, par exemple, vers 1930, ils créent un monde de piété pour les autres toreros qui vont se faire blesser. C'est-à-dire que sur leur cachet, ils donnent de l'argent pour créer ce monde de piété. Et torero, voilà. Ce n'est pas l'État espagnol, c'est eux-mêmes qui font ça.
Mais alors, du coup, il y a une autre question par rapport au devenir des pirates, puisque les toréadors, eux, ils sont encore là. Hein. Les pirates, par contre, lorsqu'ils sont somaliens, tout de suite, c'est moins sexy. Alors, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, tiens, pourquoi, en fait... parce que vous aviez tracé ce rail-là, et on se disait, effectivement, il y a une pérennité du toréador. Il n'y a pas de pérennité tout à fait aussi brillante, en tout cas. Moi, je ne connais pas encore, en tout cas, de somaliens connus pour fait de piraterie. Je ne pense pas, en fait, qu'il y a, en tout cas, s'il y a un film qui a été fait récemment, donc il y a quand même quelque chose qui se cristallise. En tout cas, cette espèce de moment de célébrité, pour poser doublement la question, à quoi tient, si on a affaire à un espèce de gouvernement à la fois marginal, à la fois complètement à contre-courant des pouvoirs de l'époque, à quoi tient la forme de célébrité que va cristalliser les pirates, et à quoi tient la disparition aussi de cette forme-là. Et effectivement, sa renaissance dans des formes qui sont finalement assez similaires, hein, en tout cas pour ce qui est des côtes de la Somalie, ne produit pas en fait ce même type de figure.
Ouais, ça c'est une question vraiment importante. Alors, je suis allé voir évidemment sur Internet. Et j'ai trouvé une chose assez sympathique, c'est un pirate, donc pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, je n'ai pas le papier là et je ne peux pas vous le lire, mais je vais vous donner à peu près le résumé de... C'est très court, c'est dans le Guardian. C'est une interview d'un pirate somalien dans le Guardian, donc, et qui date de 2008. Et ce pirate somalien donc explique pourquoi il est pirate. Alors il dit premièrement... voilà, moi j'étais étudiant, je suis allé jusqu'au baccalauréat, je voulais faire des études, et puis il n'y avait pas d'argent et tout ça, et puis j'avais quand même une certaine pensée des choses. Deuxièmement, après l'effondrement du gouvernement, c'est devenu le chaos, la guerre civile ici. Troisièmement, on pouvait faire de l'argent, et ce que j'ai choisi, parce que j'avais fait ça comme employé, c'est-à-dire de travailler sur les bateaux, c'est de faire un armement et d'être pirate. Maintenant, il a effectivement toute une flotte. Il raconte, j'ai une flotte de pirates que je commande comme ça et comme ça. Et il reprend la sécurité sociale pour les autres pirates, ça recommence. Il dit, par exemple, si nous avons, alors de mémoire, si nous avons 1 200 000 dollars, 300 000 dollars vont tout de suite à une caisse pour les autres pirates qui sont blessés, handicapés, ou etc., etc. Et ça recommence. Et pour le réarmement des bateaux, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est nécessaire au gréement et à l'équipage, et en même temps donc au matériel technique des bateaux. Donc il y a une sorte de, comment dire, de mouvement comme ça qui est à peu près similaire dans l'esprit. Il raconte qu'effectivement le butin est réparti à part égale, sauf le capitaine, que le capitaine effectivement est élu, sauf s'il est propriétaire du bateau, ce qui est son cas. Lorsqu'il est propriétaire du bateau, il ne peut pas être élu parce que c'est lui qui invite d'autres pirates, mais que la répartition est toujours aussi démocratique. Et il en donne une bonne raison. Il dit, si la répartition n'était pas égalitaire, on ne serait pas égalitaire devant le danger. Ce que n'importe quel patron d'entreprise commence parfois à comprendre, mais souvent trop tard. Donc, eux, ils comprennent ça tout de suite, à savoir, il faut passer par cette égalité-là.
Mais à la fois, paradoxalement, cette tête de mort, c'est aussi la... Et ça rejoint, pour le coup, je pense, la position des matadors. C'est quand même la question de la vitalité par fréquentation de la mort. C'est-à-dire c'est aussi la part de la société qui est globalement, dans les époques notamment contemporaines, minoritaire, qui de manière consciente et volontaire se situe dans des possibilités de la mort. Quoi. C'est-à-dire quelque chose qui va être... Et donc de ce fait, on parlait de marginalité, se met dans une marge d'une société qui est à la fois beaucoup moins vitale, mais beaucoup plus loin de la mort, en fait. Donc cette proximité, c'est une espèce de point de bascule entre une extrême vitalité, qu'on peut voir c'est dans une certaine, dans le geste du toréador, mais à la fois toujours de cette espèce de proximité en fait, de la mort, qui est celle du pirate aussi. Hein. Donc la vie exprimée par cette capacité à fréquenter de manière très directe la mort.
L'essentiel, je crois, des sociétés contemporaines consiste à essayer de cacher la mort, de la planquer par tous les moyens. Enfin, on en avait parlé par rapport à l'arc et tout ça. Évidemment, chaque fois qu'on fait ressurgir le fait que la viande procède d'abord d'un animal et ensuite de la mort de l'animal, ça pose des problèmes, alors que si elle est dans une barquette blanche, c'est un objet qu'on met dans la poêle et puis basta. Il n'y a pas de processus qui passe par le vivant, par la mort, etc. Donc, toute cette espèce d'escamotage, ce jeu de Bonneteau qui est « mais où est passée la mort ?» On ne sait pas sous quel truc, elle est là, ah oui, elle est sous le gobelet. Quoi. Ce principe-là fait que à la fois, comme l'avait souligné Baudrillard, je crois que c'est juste, la mort plane partout parce qu'elle est nulle part. Et je crois que dans des conditions pareilles, effectivement, tout cet héroïsme d'affrontement de la mort, quand je dirais héroïsme, entendons-nous, ce prestige que vaut le fait de se mettre à hauteur de mort et de dire, là où tous reculent de peur, certains franchissent le cap, se mettent soit devant le taureau, soit devant l'abordage, et disent, je recule plus, on y va. Alors évidemment, on peut considérer que selon les sociétés dans lesquelles ça se passe, il s'en retire un prestige d'autant plus fort. Mais ça peut être et c'est peut-être un peu le cas aujourd'hui, pas seulement du prestige, mais de la terreur. C'est-à-dire que le fait de d'affronter la mort, tout à coup révèle qu'elle existe toujours, qu'elle est toujours là et qu'on en a toujours autant peur. Et que ce n'est pas parce qu'on fait comme si elle n'existait pas, qu'elle n'était pas là et qu'elle ne faisait pas peur. Justement, elle fait d'autant plus peur. Donc du coup, tout ce qui consiste à affronter la mort commence à être regardé, je dirais, avec plus de passion négative ou positive. Mais enfin, en tout cas, plus de dramaturgie, quoi. Voilà, enfin, c'est ce qui me semble un peu pour ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'époque moderne, quoi.
Jean-Paul Curnier est actuellement en résidence d'écriture à l'espace Chiasma pour y développer une réflexion sur les rapports entre prédation et démocratie, entre la prise de possession et son partage, selon une forme qu'il veut différente de celle traditionnelle de l'essai. Dans ce cadre, il propose chaque mois une rencontre avec un invité de son choix, destiné à relancer la recherche dans une direction nouvelle. Cette résidence s'inscrit dans le programme de résidence d'écrivains conduit par le service Livres du Conseil régional d'Île-de-France.
Les empreintes sonores proviennent du film de Jean-Paul Curnier et Marie Herbreto, Le sang, la fortune, la gloire, les amours, projeté à l'espace Chiasma le 18 mars 2014 à l'occasion d'une rencontre publique. Les enregistrements de son corrida ont été captés par Jean-Paul Curnier dans les arènes d'Arles. Réalisation, Jean-Paul Curnier et Sébastien Seguin.